Chapitre 15. Le procès, les préliminaires. Je confesse encore une de mes faiblesses. Je ne puis prendre sur moi de copier pour la seconde fois l'horrible titre qui, sur la première page de la relation du procès, imprimait une si ignominieuse tache au nom de mon mari. J'ai déjà copié une fois ce titre, que cela suffise. En tournant cette première page, je trouve sur la seconde une note qui atteste la parfaite exactitude du compte rendu. Le reporter dit qu'il a joui de certains privilèges particuliers. Ainsi, le juge-président a révisé le résumé qu'il avait fait au jury. En outre, les avocats pour l'accusation et pour la défense, suivant l'exemple du président, ont aussi révisé leur plaidoirie pour et contre l'accusé. Enfin, un soin particulier a été apporté à la correction littérale des dépositions des témoins. J'éprouvais une certaine satisfaction en lisant cette note qui m'assurait dès le début que le compte rendu de ce procès était, dans chacun de ses détails, complètement et absolument authentique. La page suivante m'intéressa peut-être encore davantage. Elle énumérait les acteurs de ce drame judiciaire, les hommes qui avaient tenu dans leurs mains l'honneur et la vie de mon mari. En voici la liste. Juge siégeant. Le Lord Justice Clerk. Lord Drumfenwick. Lord Noblekirk. Conseil pour la couronne. Le procureur général. Mint Law. Donald Drew, Esquire, député avocat. Agent pour la couronne. Monsieur James Harlis, W.S. Conseil pour l'accusé. Le doyen de la faculté, Farmichael. Alexandre Conquête, Esquire, avocat. Agent pour la défense. Monsieur Tornierbank, W.S. Monsieur Playmore, W.S. L'acte d'accusation venait ensuite. Je ne copierai pas le langage barbare, plein de répétitions inutiles, et si j'entends quelque chose en cette matière, émaillé de fautes de grammaire, dans lequel mon mari innocent était solennellement et faussement accusé d'avoir empoisonné sa première femme. Le moins que je reproduirai ici de ce faux et odieux document, ce sera selon moi le mieux. En deux mots, Eustache MacCallan était incriminé et accusé à la requête de David Minslow, Esquire, avocat, chargé des intérêts de Sa Majesté, comme ayant donné la mort, au moyen de poison, à sa femme, dans sa résidence de Gleninch, comté de Midlothian. Il était allégué que ce poison avait été méchamment et traîtreusement administré par le prévenu à sa femme, Sarah, en deux occasions, sous forme d'arsenic introduit dans le thé, la médecine ou autres aliments et boissons, ignoré de l'avocat poursuivant, ou de toute autre manière, également ignoré du dit avocat. Il était, en outre, déclaré que la femme du prévenu avait succombé à ce poison ainsi administré par son mari, dans l'une ou dans l'autre, ou dans les deux susdites éventualités, et que son mari lui avait ainsi donné la mort. Le paragraphe suivant constatait que le dit Eustache MacCallan, conduit devant John Daviot, Esquire, avocat, substitut du shérif de Midlothian, avait, à Edimbourg, le 29 octobre, en présence du dit substitut, signé une déclaration affirmant qu'il était innocent de ce crime. Déclaration insérée dans l'acte d'accusation, ainsi que d'autres documents, papiers et articles, énumérés dans un inventaire destiné à servir de témoignage contre le prévenu. L'acte d'accusation se terminait par cette conclusion que, dans le cas où le crime imputé à l'accusé serait reconnu, prouvé par le verdict, le dit Eustache MacCallan devait être puni des peines prévues par la loi pour détourner à l'avenir de la perpétration d'un pareil crime quiconque en aurait conçu la pensée. Tel était en substance l'acte d'accusation. J'en ai fini et je me réjouis d'en avoir fini avec cette pièce. Un inventaire des papiers, documents et articles venait à la suite et remplissait trois pages. L'inventaire même était suivi de la liste des témoins et des noms des jurés, au nombre de 15, tirés au sort pour siéger dans la cause. Après quoi commençait enfin le compte-rendu du procès. Il pouvait se résumer, selon moi, en trois grandes questions. Qu'on me permette de le reproduire tel qu'il m'apparut alors à mes yeux.